Livre premier. Ouverture.
Chapitre 1. Charleston, vendredi 12 décembre 1980. Nina allait revendiquer la mort de ce Beatle, John. Je trouvais cela de fort mauvais goût. Elle avait posé son album sur ma table basse en acajou, ses coupures de presse soigneusement classées par ordre chronologique, sobre faire part de décès témoignant de tous ses festins. Le sourire de Nina Drayton était plus radieux que jamais, mais aucune chaleur ne se lisait dans ses yeux bleu pâle. « Nous devrions attendre Willy, » dis-je. « Bien sûr, Mélanie, tu as raison, comme d'habitude. Suis-je bête? Je connais pourtant les règles. » Nina se leva et se mit à faire les 100 pas, caressant distraitement les meubles ou s'exclamant doucement sur une broderie ou une statuette en céramique. Cette partie de la maison avait jadis été une serre, mais je l'utilisais à présent comme ouvroir. Il restait encore quelques plantes vertes pour capter la lumière matinale. Le soleil faisait de cette pièce un agréable lieu de séjour durant la journée, mais à présent que l'hiver était là, elle était trop froide pour qu'on y passe la soirée. Et je ne goûtais guère le sentiment que faisaient naître en moi les ténèbres qui se rassemblaient au-dessus de tous ces panneaux vitrés. « J'adore cette maison, » dit Nina. Elle se tourna vers moi et me sourit. « Tu ne peux pas savoir comme je suis impatiente de revenir à Charleston chaque fois que l'occasion se présente. Nous devrions tenir toutes nos réunions ici. » Je savais à quel point Nina détestait cette ville, cette maison. « Willy aurait de la peine, » dis-je. « Tu sais qu'il adore nous montrer sa maison de Beverly Hills et ses petites amies. » « Et ses petits amis ?» ajouta Nina, et elle éclata de rire. Nina avait changé de bien des façons. C'était assombri de bien des façons. Mais son rire n'en avait presque pas été affecté. C'était toujours le même rire rauque, mais enfantin, que j'avais entendu pour la première fois bien longtemps auparavant. Il m'avait attiré vers elle alors. Une adolescente solitaire, réagissant à la chaleur, d'une autre adolescente solitaire, tel un papillon attiré par une flamme. À présent, il ne faisait que me glacer et me mettre sur mes gardes. Nombre de papillons avaient été attirés par la flamme de Nina au fil des décennies. « Je vais faire servir le thé, » dis-je. Monsieur Thorne apporta mon plus beau service en porcelaine de chez Wedgwood. Nina et moi étions assises parmi des carrés de soleil rampant et deux visions de choses sans importance. Commentaires de profanes sur l'économie, références à des livres que l'autre n'avait pas eu l'occasion de lire, murmures de commisération inspirés par la plèbe que l'on côtoie de nos jours en avion. Un observateur dans le jardin aurait cru voir une nièce vieillissante mais toujours séduisante en visite chez sa tante préférée. Je n'irai pas jusqu'à suggérer que l'on aurait pu nous prendre pour une mère et sa fille. On me considère d'ordinaire comme une personne habillée avec goût, sinon avec élégance. Dieu sait que je dépense assez d'argent pour me faire expédier tricot de laine et chemisier en soie directement d'Écosse et de France. Mais je me suis toujours sentie mal fagotée à côté de Nina. Ce jour-là, elle portait une robe bleu pâle qui aurait dû lui coûter plusieurs milliers de dollars si j'avais correctement identifié le couturier. La couleur du tissu faisait paraître son teint encore plus parfait que d'habitude et faisait ressortir le bleu de ses yeux. Ses cheveux étaient aussi gris que les miens, mais elle réussissait à les garder longs et à les coiffer en arrière à l'aide d'une simple barrette. Nina n'en paraissait que plus juvénile et plus chic. Et j'avais l'impression que mes courtes boucles artificielles conservaient le bleu de leur dernier rinçage. Peu de gens se seraient doutés que j'avais 4 ans de moins que Nina. Le temps s'était montré clément envers elle, et elle avait festoyé plus souvent. Elle reposa sa tasse et se remit à faire les 100 pas. Cela ne ressemblait guère à Nina de se montrer aussi nerveuse. Elle s'immobilisa en face de la vitrine. Son regard parcourut les houmels, les étains, puis s'arrêta surpris. « Dieu du ciel, Mélanie, un revolver ? Quel endroit étrange pour ranger un vieux revolver. C'est un souvenir, dis-je. Très coûteux. Et tu as raison. C'est un endroit stupide pour le ranger. Mais c'est la seule vitrine de la maison qui ferme à clé, et Mrs. Hodges amène souvent ses petits-enfants quand elle me rend visite. Tu veux dire qu'il est chargé ? Non, bien sûr que non, mentis-je. Mais les enfants ne devraient pas jouer avec de tels objets. Je laissai ma phrase inachevée. Nina hocha la tête sans se soucier de dissimuler un sourire condescendant. Elle alla contempler le jardin par la fenêtre sud. Va au diable. Que Nina Drayton n'ait pas reconnu ce revolver en disait long. Le jour où il fut tué, Charles Edgar Larchemont était mon soupirant depuis exactement 5 mois et 2 jours. Les bans n'avaient pas été publiés, mais nous devions nous marier. Ces 5 mois avaient représenté un condensé de l'époque. Une époque naïve, légère, formaliste jusqu'à la préciosité, et romantique. Surtout romantique. Romantique au pire sens du terme. Vouée à des idéaux si rupeux ou insipides que seul un adolescent ou une société adolescente s'efforcerait d'embrasser. Nous étions des enfants jouant avec des armes chargées. Nina, elle s'appelait alors Nina Hawkins, avait son propre soupirant. Un anglais élancé et pâteux, mais sincère, nommé Roger Harrison. Monsieur Harrison avait rencontré Nina à Londres 1 an plus tôt, durant les premières étapes du tour d'Europe des Hawkins. L'anglais s'était déclaré conquis, encore une absurdité de cet âge infantile, et l'avait suivi d'une capitale à l'autre jusqu'au moment où, sévèrement réprimandé par le père de Nina, un petit industriel sans imagination que son statut social douteux mettait constamment sur la défensive, Harrison était retourné à Londres, maître de l'ordre dans ses affaires. Quelques mois plus tard, il débarquait à New York alors que Nina était exilée chez sa tante de Charleston pour mettre fin à un autre de ses flirts. Toujours résolu, l'anglais pâteux l'avait suivi dans le sud, sans cesser un seul instant de respecter l'étiquette et les convenances de l'époque. Nous formions un groupe fort joyeux. Je rencontrais Nina lors du bal de juin donné par la cousine Célia et, dès le lendemain, nous remontions tous les quatre la Cooper River à bord d'un bateau de location pour aller pique-niquer sur Daniel Island. Roger Harrison, sérieux et solennel en toutes circonstances, était une victime idéale pour l'humour irrévérencieux de Charles. Et Roger, loin de s'offusquer de ses plaisanteries aimables, s'empressait de se joindre au rire qu'elle déclenchait. Nina en redemandait. Les deux gentlemen rivalisaient d'attention à son égard, et bien que Charles ne manquât jamais de me témoigner la primauté de son affection, il était entendu que Nina Hawkins était une de ces jeunes femmes qui suscitent invariablement la galanterie et l'attention des hommes, quelles que soient les circonstances. Et l'élite sociale de Charleston n'était nullement aveugle au charme combiné de notre quatuor. Durant les 2 mois de cet été aujourd'hui enfui, aucune réception ne pouvait être complète, aucune excursion organisée, aucune festivité réussie, si les 4 joyeux drilles que nous étions n'y étaient pas invités et ne l'honoraient pas de leur présence. Nous exercions une telle domination sur la jeunesse dorée de la ville que les cousines Célia et Lorraine persuadèrent leurs parents de partir en vacances dans le Maine 2 semaines plus tôt que prévu. Je ne sais pas exactement quand Nina et moi avons eu l'idée du duel. Peut-être fut-ce lors d'une de ces longues nuits chaudes où l'une venait dormir chez l'autre. Le plaisir de se blottir au creux du même lit, d'échanger murmures et gloussements, d'étouffer nos rires lorsqu'un froissement rêche trahissait la présence d'un domestique de couleur arpentant les couloirs obscurs. Quoi qu'il en soit, cette idée était le prolongement naturel des prétentions romantiques de l'époque. L'idée de voir Charles et Roger s'affronter en duel pour un point d'honneur abstrait dont nous étions la cause nous excitait d'une façon physique que je reconnais à présent comme une simple forme de titillation sexuelle. Tout cela aurait été inoffensif s'il n'y avait pas eu notre talent. Nous réussissions tellement bien à manipuler les hommes. Une manipulation qui était en ce temps-là non seulement admise, mais encouragée. Que ni l'une ni l'autre ne voyait quoi que ce soit d'extraordinaire dans la façon dont nos souhaits se transformaient en actes. La parapsychologie n'existait pas à cette époque, ou plutôt, elle n'existait que sous la forme de séances de table tournante qui n'étaient que des jeux de société. En tout cas, nous avons passé plusieurs semaines à nous murmurer des fantasmes, puis l'une de nous, ou peut-être les deux, a transformé le fantasme en réalité grâce à son talent. Dans un sens, ce fut notre premier festin. Je ne me rappelle pas la cause supposée de la querelle, peut-être une mauvaise interprétation délibérée d'une des piques de Charles. Je ne peux me rappeler qui Charles et Roger prirent comme témoin pour cet affrontement illégal. Mais je me rappelle bien l'expression blessée et confuse de Roger Harrison durant ces quelques jours. C'était une caricature de bêtise et de lenteur d'esprit. La confusion d'un homme se retrouvant dans une situation qu'il n'a pas souhaitée et dont il ne peut s'échapper. Je me rappelle Charles et ses brusques changements d'humeur, ses saillies humoristiques, ses périodes de colère noire, et ses larmes et ses baisers, la nuit précédant le duel. Je me rappelle parfaitement la beauté de ce matin-là. Les rayons du soleil se déployaient en éventail à travers la brume montant de la rivière lorsque nous nous sommes mis en route pour le lieu du duel. Je me rappelle Nina se penchant vers moi et étreignant ma main avec une impétuosité qui se communiqua à mon corps comme un choc électrique. Le reste de cette matinée est en grande partie absent de mon souvenir. Peut-être que l'intensité de ce premier festin inconscient m'a fait littéralement perdre conscience lorsque j'ai été englouti par le flot de peur, d'excitation, de fierté, de virilité, qui émanait de nos deux soupirants alors qu'ils affrontaient la mort par ce matin superbe. Je me rappelle avoir ressenti un choc en me rendant compte que ceci allait vraiment arriver. Alors que je sentais l'herbe ployer sous les bottes. Quelqu'un comptait les pas. Je me rappelle vaguement le poids du revolver dans ma main. La main de Charles, je pense. Je ne le saurais jamais avec certitude. Et une seconde de clarté glaciale, avant qu'une explosion ne rompe la connexion et que l'odeur âcre de la poudre ne me ramène à moi-même. Ce fut Charles qui mourut. Je n'ai jamais réussi à oublier l'incroyable quantité de sang qui coulait du petit trou rond à son sein. Sa chemise blanche était écarlate lorsque j'arrivais enfin près de lui. Il n'y avait pas eu trace de sang dans nos fantasmes. Il n'y avait pas eu non plus le spectacle de Charles, dodelinant de la tête, de la salive coulant sur son torse ensanglanté, pendant que ses yeux roulaient en arrière, pareils à deux œufs blancs enchâssés dans son crâne. Roger Harrison sanglotait pendant que Charles rendait son dernier soupir, hoquet frissonnant sur ce champ d'innocence. Je ne me rappelle strictement rien des heures de confusion qui ont suivi. C'est le lendemain matin que j'ai ouvert mon sac pour y trouver le revolver de Charles, rangé parmi mes effets. Pourquoi avais-je voulu conserver cette arme? Si j'avais souhaité prélever un souvenir sur le corps de mon amant défunt, pourquoi était-ce ce sinistre morceau de métal? Pourquoi arracher à ses doigts morts le symbole de notre péché et de notre légèreté? Le fait que Nina ne reconnaisse pas ce revolver en disait long. Willy est ici. Ce ne fut pas M. Thorne qui annonça l'arrivée de notre invité, mais la secrétaire de Nina, la répugnante Miss Barrett Kramer. Son apparence était aussi hommas que son nom. Des cheveux noirs coupés courts, de larges épaules et un regard neutre et agressif qui me faisait penser à une lesbienne ou à un criminel. Pour l'âge, une trentaine d'années. « Merci, Barrett, ma chère, » dit Nina. J'allais au-devant de Willy, mais M. Thorne l'avait déjà fait entrer et nous nous rencontrâmes dans le couloir. « Mélanie, tu as l'air en pleine forme. Tu rajeunis chaque fois que je te vois. » Nina. Son changement de ton était évident. Les hommes étaient toujours éblouis en revoyant Nina après une longue absence. Étreinte et embrassade suivirent. Willy paraissait plus dissolu que jamais. Son manteau d'alpaga était coupé de façon exquise. Son pullover à col roulé réussissait à dissimuler les rides de son cou flasque, mais lorsqu'il ôta sa casquette de sport, il bouleversa l'ordonnance des longues mèches de cheveux blancs qu'il plaquait sur son crâne pour masquer la progression de sa calvitie. Le visage de Willy était cramoisi d'excitation, mais on percevait sur son nez et sur ses joues la coupe rose caractéristique de l'abus d'alcool et de drogue. « Mesdames, je pense que vous connaissez déjà mes associés, Tom Reynolds et Jensen Luar. » Les deux hommes vinrent s'ajouter à la foule qui peuplait mon couloir étroit. Monsieur Reynolds, blond et mince, souriait de ses dents parfaites. Monsieur Luar, un noir gigantesque, se tenait penché en avant, une expression maussade sur son visage fruste, d'ancien boxeur. J'étais sûre que ni Nina ni moi n'avions jamais rencontré ces pions de Willy. « Pourquoi n'allons-nous pas dans le petit salon ? » proposai-je. S'ensuivit une progression malaisée qui s'acheva lorsque nous prîmes place tous les trois dans des fauteuils rembourrés disposés autour d'une table basse de style anglais ayant appartenu à ma grand-mère. « Un peu plus de thé, je vous prie, Monsieur Thorne. » Miss Kramer interpréta cette demande comme une invitation à prendre congé, mais les deux pions de Willy restèrent sur le seuil, hésitant, se balançant d'une jambe sur l'autre et contemplant le service en cristal comme si leur seule présence avait suffi à en briser une pièce. Je n'aurais guère été surprise si tel avait été le cas. « Jensen !» Willy claqua des doigts. Le noir hésita, puis lui apporta un attaché-case en cuir d'aspect coûteux. Willy le posa sur la table et l'ouvrit de ses doigts petits et épais. « Pourquoi n'allez-vous pas demander au valet de Miss Fuller de vous servir un verre ?» Lorsqu'ils furent partis, Willy secoua la tête et sourit à Nina. « Excuse-moi, ma chérie. » Nina posa une main sur la manche de Willy. Elle se pencha en avant, tout impatiente. « Mélanie n'a pas voulu que je commence le jeu sans toi. N'était-ce pas horrible, de ma part, d'avoir une telle idée, cher Willy ?» Willy plissa le front. Au bout de 50 ans, il se hérissait encore quand on l'appelait Willy. À Los Angeles, il était Big Bill Borden. Quand il retournait dans son Allemagne natale, ce qui lui arrivait peu fréquemment, vu les dangers encourus, il était à nouveau Wilhelm von Borchert, seigneur du manoir sombre de la forêt et de la chasse. Mais Nina l'avait appelé Willy lorsqu'elle l'avait rencontré en 1931 à Vienne, et il était demeuré Willy. « C'est toi qui commences, Willy, » dit Nina. « À toi de jouer le premier. » Je me rappelais un temps où nous aurions passé les premiers jours de nos réunions en longues conversations durant lesquelles nous nous racontions notre existence. Aujourd'hui, nous ne prenions même plus le temps d'échanger des banalités. Willy découvrit ses dents et prit dans son attaché-caisse des coupures de journaux, des carnets de notes et un paquet de cassettes. Il n'avait pas plus tôt encombré la table de son matériel que M. Thorne arrivait avec le thé et avec l'album de Nina qu'il avait ramené de l'ouvroir. Willy dégagea un petit espace d'un geste brusque. Au premier coup d'œil, on remarquait certaines ressemblances entre Willy Borchert et M. Thorne. C'était une erreur. Les deux hommes étaient plutôt rougeaux, mais Willy devait son teint à ses excès et à ses émotions, deux choses inconnues de M. Thorne depuis plusieurs années. La calvitie de Willy était une tare dont il avait conscience et qu'il s'efforçait maladroitement de dissimuler. Il ressemblait à un furet atteint de la pelade, tandis que le crâne de M. Thorne était lisse et poli. Il était impossible d'imaginer un M. Thorne chevelu. Les deux hommes avaient les yeux gris. Un romancier les aurait qualifiés de froids, mais la froideur des yeux de M. Thorne exprimait l'indifférence, une clarté issue d'une absence absolue de pensée ou d'émotion indésirable. Les yeux de Willy étaient du même gris que l'hiver sur la mer du Nord, et ils étaient souvent obscurcis par les nuées d'émotions qui le contrôlaient. La fierté, la haine, L'amour de la douleur. Le plaisir de détruire. Willie n'employait jamais le mot festin pour décrire les occasions où il utilisait son talent. De toute évidence, j'étais la seule à penser en ces termes, mais il parlait parfois de chasse. Peut-être pensait-il aux sombres forêts de sa patrie, quand il traquait ses proies humaines dans les artères stériles de Los Angeles. Willie rêvait-il de la forêt? Me demandai-je. Regrettait-il ses vestes de chasse kaki? Les applaudissements de ses rabatteurs? Le sang qui coulait des sangliers à l'agonie? Ou bien Willie se rappelait-il le bruit des bottes sur le pavé? Les poings de ses lieutenants martelant les portes? Peut-être Willie associait-il toujours sa chasse avec la nuit européenne des fours crématoires qu'il avait contribué à superviser. J'appelais cela le festin. Willie l'appelait la chasse. Jamais je n'avais entendu Nina l'appeler de quelque nom que ce soit. « Où est ton magnétoscope ?» demanda Willie. « J'ai tout enregistré sur cassette. »« Oh, Willie !» dit Nina d'une voix exaspérée. « Tu connais Mélanie, elle est si démodée. Elle n'a sûrement pas de magnétoscope. »« Je n'ai même pas de télévision, » dis-je. Nina éclata de rire. « Bon sang !» marmonna Willie. « Peu importe, j'ai gardé d'autres traces. » Il ôta la bande élastique qui entourait ses petits carnets noirs. Mais ça aurait beaucoup mieux donné sur cassette. Les stations de Los Angeles ont consacré plusieurs heures d'émission à l'étrangleur d'Hollywood et j'avais préparé une sélection de « Ah, tant pis !» Il jeta les cassettes vidéo dans son attaché-case et le referma d'un geste brusque. « 23, » dit-il. « 23. » Depuis notre dernière réunion, il y a 12 mois. Ça ne semble pas si lointain, n'est-ce pas? Montre-nous ça, dit Nina. Elle s'était penchée en avant et ses yeux bleus semblaient étincelants. Je suis dévorée par la curiosité depuis que j'ai vu l'interview de l'étrangleur à 60 Minutes. Il était à toi, Willie. Il semblait si...
Il était à moi. Un minable. Un petit homme timide. C'était le jardinier d'un de mes voisins. Je l'ai laissé vivre pour que la police puisse l'interroger, pour qu'il ne subsiste aucun doute. Il se pendra dans sa cellule le mois prochain, quand la presse aura cessé de s'intéresser à lui. Mais ceci est plus intéressant. Regardez.
Willie étala plusieurs photographies en noir et blanc sur papier glacé. Un cadre supérieur de NBC avait assassiné les 5 membres de sa famille et noyé dans sa piscine une actrice de feuilleton en visite chez lui. Il s'était ensuite infligé plusieurs blessures au couteau et avait écrit un message en lettres de sang sur le mur de son sauna « À chacun son dû ». « Un souvenir du bon vieux temps, Willie ?» demanda Nina. « Death to the pigs et tout ça ?»
Non, bon sang. Je pense que ce commentaire ironique devrait me valoir quelques points supplémentaires. Le personnage de la fille devait périr noyé dans un prochain épisode. Le synopsis était déjà écrit.
A-t-il été difficile à utiliser? Cette question venait de moi. Je ne pouvais m'empêcher d'être curieuse. Willie haussa un sourcil.
Pas vraiment. C'était un alcoolique qui était aussi accro à la cocaïne. Il n'en restait pas grand-chose. Et il détestait sa famille. C'est le cas de la plupart des gens.
De la plupart des Californiens, peut-être, dit Nina d'une voix compassée. Ce commentaire m'étonnait de sa part.
Son père s'était suicidé en se jetant sous un tramway.
Où as-tu établi le contact? Demandai-je.
Au cours d'une réception. L'endroit habituel. Il achetait sa coke à un metteur en scène qui avait ruiné une de mes...
As-tu été obligé de renouveler le contact? Willie me regarda en plissant le front.
Il réussit à contrôler sa colère, mais son visage s'empourpra un peu plus.
Ya.
Je l'ai revu 2 fois. La seconde, je l'ai regardé jouer au tennis depuis ma voiture.
Quelques points pour l'ironie,
dit Nina. Mais tu en perds quelques autres pour avoir renouvelé le contact. S'il était aussi vide que tu le dis, tu aurais dû être capable de l'utiliser après une seule rencontre. Qu'est-ce que tu as d'autre ? Il avait son assortiment habituel. Des meurtres sordides et pathétiques, deux assassinats domestiques, une collision routière qui avait débouché sur un meurtre à l'arme à feu. « J'étais dans la foule, » dit Willy. « Je suis entré en contact avec un des automobilistes. Il avait un revolver dans sa boîte à gants. »«
2 points, » dit Nina.
Willy avait gardé le meilleur pour la fin. Un acteur qui avait connu la célébrité en tant qu'enfant avait été la victime d'un accident bizarre. Il était sorti de son appartement de Bel Air en laissant le robinet de gaz ouvert, puis y était revenu pour craquer une allumette. Deux autres personnes avaient péri dans l'incendie qui s'était ensuivi. « Tu ne peux revendiquer que sa mort ?» dit Nina.
« Ya.
Tu es sûr de celui-ci ? Ça aurait pu être un accident. »«
Ne sois pas ridicule, » dit sèchement Willy.
Il se tourna vers moi.
« Celui-ci a été très dur à utiliser. Il était très fort. J'ai supprimé le souvenir du robinet de gaz dans sa mémoire. J'ai dû travailler 2 bonnes heures sur lui. Puis je l'ai forcé à entrer dans la cuisine. Il a résisté un bon moment avant de prendre une allumette.
« Tu aurais dû lui faire prendre son briquet ?» dit Nina.
« Il ne fumait pas, » gronda Willy. « Il avait arrêté l'année dernière. »«
Oui, » dit Nina en souriant. « Je me souviens l'avoir entendu dire lors de l'émission de Johnny Carson. » Je ne savais pas si elle plaisantait ou non. Nous nous livrâmes ensuite au rituel consistant à compter les points. Ce fut surtout Nina qui s'en chargea. Au fil des minutes, Willy se montra tantôt maussade, tantôt expansif. À un moment donné, il se pencha vers moi et me tapota le genou, quémandant mon aide en riant. Je restai muette. Il finit par renoncer, se dirigea vers l'armoire à liqueurs, prit la vieille carafe de mon père et se servit un grand verre de bourbon. La lumière vespérale projetait ses ultimes rayons horizontaux sur le vert teinté de la baie vitrée, bariolant Willy d'écarlate lorsqu'il se planta près de la commode en chêne. Ses yeux étaient de minuscules braises rouges dans un masque de sang. « 41, » dit Nina. Elle leva vers nous des yeux brillants et montra sa calculatrice comme s'il s'agissait d'une preuve objective. « J'ai compté 41 points. Tu arrives au même résultat, Mélanie ?»«
Ya, » la coupa Willy. « C'est bien. À présent, voyons ton tableau de chasse, Nina. »
Sa voix était dépourvue de timbre. Willy lui-même avait perdu une partie de son intérêt pour le jeu. Avant que Nina ait eu le temps de commencer, Monsieur Thorne entra et me fit signe que le dîner était servi. Nous devions nous rendre dans la salle à manger. Willy se versa un autre verre de bourbon et Nina agita les mains, feignant d'être frustrée par cette interruption. Une fois assise à la longue table d'acajou, j'endossais mon rôle d'hôtesse. La tradition voulait que toute mention du jeu fût interdite pendant le dîner. Tout en dégustant notre potage, nous parlâmes du nouveau film de Willy et de la nouvelle boutique que Nina avait ajoutée à sa chaîne de magasins. Apparemment, Vogue allait interrompre la publication du billet mensuel que Nina signait dans ses pages, mais un syndicat de presse était prêt à le diffuser dans plusieurs journaux du pays. Mes deux invités louèrent la perfection du jambon au madère, mais j'estimais que la sauce composée par Monsieur Thorne n'était pas assez relevée. L'obscurité avait envahi les fenêtres avant que nous ayons fini notre mousse au chocolat. À la lumière réfractée du chandelier, les cheveux de Nina étaient plus étincelants que jamais, tandis que les miens risquaient d'apparaître encore plus bleus. Soudain, on entendit du bruit dans la cuisine. Le visage du colosse noir apparut dans l'entrebâillement de la porte. Des mains blanches étaient posées sur ses épaules et son expression était celle d'un enfant bougon. Ce qu'on fout là, assis comme...
Les mains blanches le firent disparaître.
Excusez-moi, mesdames. »
Willis essuya les lèvres et se leva. Sa démarche était toujours gracieuse, en dépit de son âge. Nina enfonça sa cuillère dans sa mousse au chocolat. Venant de la cuisine, on entendit un ordre sec et le bruit d'une gifle. C'était une gifle assénée par un homme, aussi dure et sèche qu'un coup de feu. Lorsque je levai les yeux, M. Thorne était à mes côtés et débarrassait la table.
« Du café, je vous prie, M. Thorne. Pour nous tous. »
Il hocha la tête et eut un sourire aimable. Franz Anton Mesmer avait connu ce phénomène même s'il ne l'avait pas compris. Je soupçonne Mesmer d'avoir eu quelques traces du talent.
Les pseudo-sciences modernes l'ont étudié, lui ont donné un nouveau nom, lui ont enlevé une grande partie de son pouvoir, ont rendu confus son usage et ses origines.
Mais il reste l'ombre du phénomène décrit par Mesmer. Personne n'a une idée exacte de ce qu'est un festin. La montée de la violence moderne me désespère.
Je cède parfois au désespoir.
Littéralement à ce gouffre de désespoir profond et sans avenir que Hopkins appelait le putride réconfort.
Quand je contemple cet abattoir qu'est devenu l'Amérique, ses papes et ses présidents abattus de façon presque routinière,
je me demande s'il existe d'autres personnes douées du talent, ou si la boucherie n'est pas tout simplement devenue un nouvel art de vivre.
Chaque être humain se nourrit de violence, de la démonstration de son pouvoir sur son prochain.
Mais rares sont ceux qui, comme nous, ont goûté l'ultime pouvoir.
Et sans le talent,
rares sont ceux qui connaissent le plaisir inégalé du meurtre. Sans le talent,
même ceux qui se nourrissent de la vie ne peuvent savourer le flot d'émotions qui envahit le traqueur et sa proie.
L'extase toute puissante du traqueur, qui a transgressé toutes les règles et tous les châtiments. L'étrange soumission presque sexuelle de la proie dans cette ultime seconde de vérité où toutes ses options sont supprimées. Tous ses avenirs déniés, toutes ses possibilités effacées par cette démonstration de pouvoir absolu. La violence moderne me désespère.
Sa nature impersonnelle, son caractère routinier qui l'a rendu accessible au plus grand nombre, me désespère.
J'avais un poste de télévision, mais je l'ai revendu au plus fort de la guerre du Vietnam.
Ces tranches de mort aseptisées, que l'œil de la caméra rendait encore plus distantes, ne signifiaient rien à mes yeux.
Mais je pense qu'elles signifiaient quelque chose pour les veaux qui m'entourent.
Lorsque la guerre a pris fin, ainsi que sa comptabilité macabre détaillée chaque soir sur les écrans,
ils en ont redemandé encore et encore.
Et les écrans de cinéma et les rues de cette chère nation mourante leur ont fourni en abondance une provende médiocre. C'est une dépendance que je connais bien. Ils ne comprennent rien.
Lorsque l'on se contente de l'observer, la mort violente est une tapisserie de souillures, de tristesse et de confusion.
Mais pour ceux d'entre nous qui goûtent au festin,
la mort peut être un sacrement. À mon tour, à mon tour! La voix de Nina ressemblait encore à celle de la jeune fille qui remplissait son carnet de bal en rendant visite à sa cousine Célia. Nous étions retournés dans le petit salon.
Willy avait fini de boire son café
et avait demandé un verre de cognac à M. Thorne. Et j'étais très embarrassée.
Willy était l'une de mes connaissances les plus proches,
et son comportement erratique en ma présence était un signe certain de l'affaiblissement de son talent. Nina paraissait n'avoir rien remarqué.
« Je les ai rangés dans l'ordre, » dit Nina.
Elle ouvrit son album sur la table basse à présent vide.
Willy le feuilleta avec attention, posant quelques questions, mais se contentant le plus souvent de grogner en signe d'assentissement. J'émis quelques murmures approbateurs, bien que je n'eusse jamais entendu parler de ces meurtres. Sauf de celui du Beetle, bien sûr. Nina l'avait gardé pour la fin.
« Bon Dieu, Nina, c'était toi ?»
Willy semblait au bord de la colère.
Les festins de Nina avaient toujours eu à leur menu des suicides sur Park Avenue
et des scènes de ménage qui se concluaient par des meurtres au pistolet de dame. Ce genre d'exercice évoquait davantage le style cru de Willy. Peut-être avait-il l'impression qu'on empiétait sur son territoire.
« Je veux dire, tu as risqué gros, n'est-ce pas ? C'est si... bon sang. Si public. »
Nina éclata de rire et reposa sa calculatrice. « Willy, mon cher, c'est bien le but du jeu, n'est-ce pas ? » Willy se dirigea vers l'armoire à liqueurs et remplit son verre de cognac. Les branches nues, fouettées par le vent, giflaient le verre armé de la baie vitrée. « Je n'aime pas l'hiver. Même dans le sud, il vous sape l'esprit. »
« Est-ce que ce type, peu importe son nom, n'avait pas déjà acheté son arme à Hawaï ?»
demanda Willy depuis l'autre bout de la pièce.
« Il me semble que son acte était prémédité. Je veux dire, s'il surveillait, déjà, sa victime. »
« Willy, mon cher, » dit Nina d'une voix aussi froide que le vent qui agitait les branches. « Personne n'a dit qu'il était stable. »
« Combien des tiens étaient stables, Willy ?»«
Mais c'est à cause de moi que c'est arrivé, mon chéri. C'est moi qui ai choisi le lieu et l'heure. Ne vois-tu pas combien le choix du lieu est ironique, Willy ?» Après le petit tour que nous avons joué au réalisateur de ce film de sorcellerie il y a quelques années, ça sortait tout droit de son scénario.
« Je ne sais pas, » dit Willy.
Il s'assit lourdement sur le divan, aspergeant de cognac sa coûteuse veste de sport. Il ne remarqua rien. La lueur de la lampe se reflétait sur sa calvitie. Les marbrures de l'âge sur sa peau étaient plus visibles maintenant que la nuit était tombée, et son cou était une masse de tendons qui disparaissait dans son col roulé.
« Je ne sais pas. »
Il leva les yeux vers moi et m'adressa un sourire soudain, comme si nous étions deux conspirateurs.
Peut-être qu'il s'est passé la même chose qu'avec cet écrivain. Hein, Mélanie, peut-être.
Nina contempla ses mains croisées sur son giron. Le bout de ses doigts soigneusement manucurés était blême. Les vampires de l'esprit. C'était le titre que l'écrivain comptait donner à son livre. Je me demande parfois s'il aurait été capable d'en écrire une seule ligne. Comment s'appelait-il ?
Un nom aux consonances russes.
Willy et moi avions reçu un télégramme de Nina. « Venez vite, besoin de vous. » Cela nous avait suffi. Le lendemain matin, j'étais à bord du premier avion pour New York. C'était un Constellation à hélice, très bruyant, et j'avais passé la majeure partie du vol à convaincre une hôtesse de l'air trop prévenante que je n'avais besoin de rien et que je me sentais très bien. De toute évidence, elle avait décidé que j'étais une vieille grand-mère qui prenait l'avion pour la première fois de sa vie. Willy réussit à arriver 20 minutes avant moi. Nina était bouleversée comme je ne l'avais jamais vue, au bord de l'hystérie. 2 jours plus tôt, elle s'était rendue à une réception à Manhattan. Elle n'était pas bouleversée au point d'oublier de nous dire quelle célébrité y assistait et y avait partagé un coin de salon, une marmite à fondue et des confidences avec un jeune écrivain. Disons plutôt que toutes les confidences venaient de ce dernier. Nina le décrivit comme un type du genre hirsute. Barbe rare, vers épais, veste de velours et chemise écossaise, selon Nina. Aucune réception n'était réussie si l'on n'y trouvait pas au moins un spécimen dans son genre. Elle se garda bien de le qualifier de beatnik, car ce terme venait juste de se démoder, mais personne ne connaissait encore le mot hippie, et de toute façon, il ne lui aurait guère convenu. Il était de ces écrivains qui survivaient, du moins à l'époque, en vendant leur sang et en écrivant des adaptations romancées de séries télévisées. Alexander quelque chose. L'idée de son roman, il déclara à Nina qu'il y travaillait depuis un bon moment, était que la plupart des meurtres commis ces dernières années étaient en fait l'œuvre d'un petit groupe de tueurs doués de pouvoirs psychiques. Il les appelait « les vampires de l'esprit » et utilisant des innocents pour accomplir leur forfait. À l'en croire, un éditeur de livres de poche avait manifesté de l'intérêt pour son synopsis
et était prêt à lui proposer un contrat tout de suite, à condition qu'il intitule son roman « Le facteur zombie » et y rajoute du sexe.
« Et alors ?» avait dit Willy dégoûté. « C'est pour ça que tu m'as fait traverser le continent ?»«
Je pourrais produire un film à partir de cette idée. »
Ce fut l'excuse qui nous permit d'interroger Alexander Machin lorsque Nina organisa une réception impromptue le lendemain soir. Je n'y assistais pas. Selon Nina, la soirée ne fut pas une réussite. Mais elle donna à Willy l'occasion d'avoir une longue conversation avec le romancier en puissance. Celui-ci était si pitoyablement désireux de travailler avec Bill Borden, le producteur de Souvenirs de Paris, Trois sur une balançoire, et deux ou trois autres films en technicolor ne passant plus que dans des drive-in, qui lui révéla que son livre se réduisait pour l'instant à un synopsis fatigué et 12 pages de notes. Mais il était sûr de pouvoir rédiger un traitement pour M. Borden dans un délai de 5 semaines, voire 3, si on le faisait venir à Hollywood afin qu'il puisse créer dans un environnement stimulant pour l'esprit. Plus tard, nous avons envisagé la possibilité que Willy prenne une option sur ses traitements, mais il avait des ennuis financiers à l'époque, et Nina se montra intraitable. Finalement, le jeune écrivain s'ouvrit l'artère fémorale avec une lame gilette et dévala les rues de Greenwich Village en hurlant avant d'aller mourir dans une ruelle sordide. Je ne pense pas que quiconque ait pris la peine de consulter ce qui restait de ses notes.
Peut-être qu'il s'est passé la même chose qu'avec cet écrivain. Ya, Mélanie ?
Willy me tapota le genou. J'acquiesçai.
Il était à moi, reprit-il. Et Nina a tenté de se l'attribuer. Tu te rappelles ?
J'acquiesçai de nouveau. En fait, il n'était ni à Willy ni à Nina. Si j'avais évité la réception, c'était afin d'entrer en contact avec le jeune homme sans qu'il remarque qu'on le suivait. Ce fut facile. Je me rappelle m'être assise dans un petit café surchauffé situé en face de son immeuble. Ce fut très facile. Tout se déroula si vite que je n'eus même pas l'impression de festoyer. Puis je repris conscience du crachotement des radiateurs et de l'odeur de salami alors même que les clients se précipitaient vers la porte pour voir d'où venaient les hurlements. Je me rappelle avoir lentement fini mon thé afin de ne quitter les lieux qu'après le départ de l'ambulance. « Ridicule !» dit Nina. Elle s'affaira sur sa calculatrice. « Combien de points ?» Elle se tourna vers moi. Je me tournai vers Willy.
« 6 !»
dit-il avec un haussement d'épaule. Nina fit tout un cinéma pour additionner ses chiffres. « 38 !» dit-elle avec un soupir théâtral.
« Tu as encore gagné, Willy. Ou plutôt, tu m'as encore battu.
Mélanie n'a encore rien dit. Tu es bien silencieuse, ma chère. Tu nous as sans doute réservé une surprise ?»«
Oui, » dit Willy. « C'est à ton tour de gagner. Cela fait plusieurs années que tu n'as pas gagné. »«
0 » dis-je. Je m'étais attendu à une explosion de questions, mais le silence n'était rompu que par le tic-tac de la pendule de la cheminée. Nina avait détourné les yeux et contemplait quelque chose parmi les ombres dans un coin de la pièce.
« 0 » répéta Willy.
« Il y en a eu...
1 »
dis-je finalement. Mais c'était un accident. J'ai surpris des hommes en train d'agresser un vieillard derrière.
C'était un accident.
Willy était agité. Il se leva, alla près de la fenêtre, prit une chaise et s'assit à califourchon dessus, croisant les bras sur son dossier.
« Qu'est-ce que ça veut dire ?»«
Tu te retires du jeu ?»
demanda Nina en se tournant vers moi. La réponse était contenue dans la question et je ne dis rien.
« Pourquoi ?» fit sèchement Willy.
Il était si agité que son accent allemand devenait perceptible. Si j'avais été élevée à une époque où il était permis aux jeunes filles de hausser les épaules, c'est ce que j'aurais fait à ce moment-là. Mais je me contentais de laisser courir mes doigts sur une couture imaginaire de ma jupe. C'était Willy qui m'avait posé une question. Mais ce fut Nina que je regardais droit dans les yeux
lorsque je finis par répondre « Je suis lasse. Cela fait si longtemps. Je pense que je vieillis. »
« Tu vieilliras encore plus si tu arrêtes de chasser !» dit Willy.
Son corps, sa voix, le masque rouge de son visage, tout chez lui exprimait une terrible colère à peine contrôlée.
« Mon Dieu, Mélanie, tu parais déjà plus vieille. Tu as l'air lamentable. C'est pour ça que nous chassons, femme. Regarde-toi dans la glace. Souhaites-tu mourir comme une vieillarde tout simplement parce que tu es lasse d'utiliser les autres? Ah !»
Willy se leva et nous tourna le dos.
« Ridicule !»
La voix de Nina était forte, assurée, à nouveau dominatrice. « Mélanie est lasse, Willy. Sois gentil avec elle. Nous connaissons tous des périodes semblables. Je me rappelle l'état dans lequel tu étais après la guerre, comme un petit chien battu. Tu refusais même de sortir de ton appartement minable de Baden. Même quand on t'a aidé à venir dans le New Jersey, tu n'arrêtais pas de bouder, de t'apitoyer sur ton sort. C'est Mélanie qui a eu l'idée du jeu pour t'aider à remonter la pente. Alors silence. Ne dis jamais à une dame qui se sent lasse et déprimée qu'elle a l'air lamentable. Honnêtement, Willy, il y a des moments où tu es un vrai Schwarzenegger et un malotru de surcroît. J'avais imaginé bien des réactions à ma déclaration, mais c'était celle-ci que je redoutais le plus. Elle signifiait que Nina s'était elle aussi lassée du jeu. Elle signifiait que Nina était prête à passer à un niveau supérieur. J'en avais la certitude. « Merci Nina, ma chérie, » dis-je. « Je savais que tu comprendrais. » Elle tendit la main et me toucha le genou d'un geste rassurant. Même à travers la laine de ma jupe, je sentis la froideur de ses doigts blancs. Mes invités ne voulaient pas passer la nuit chez moi. Je les suppliais. Je les réprimandais. Je leur fis remarquer que leur chambre était déjà prête, que M. Thorne avait déjà préparé leur lit. « La prochaine fois, » dit Willy. « La prochaine fois, Mélanie, ma petite chérie. Nous passerons tout un week-end ensemble comme avant. Toute une semaine. » Willy était de bien meilleure humeur depuis que chacune de nous lui avait versé son prix de $1000. Il avait boudé, mais j'avais insisté. Sa vanité s'était trouvée apaisée lorsque M. Thorne lui avait remis un chèque déjà libellé au nom de William D. Borden. Je lui demandai une nouvelle fois de rester, mais il m'affirma qu'il avait déjà réservé des places dans l'avion de minuit à destination de Chicago. Il devait rencontrer un auteur couronné de lauriers au sujet d'un scénario. Lorsqu'il m'étreignit pour me dire adieu, je m'aperçus que ses deux compagnons se trouvaient derrière moi et je connus un bref instant de terreur. Mais ils s'en furent. Le jeune homme blond me sourit de toutes ses dents blanches et le noir inclina la tête en signe d'adieu. Du moins, l'interprétai-je comme tel. Puis nous nous retrouvâmes seuls, Nina et moi, toutes seules. Pas tout à fait. Miss Kramer était à côté de Nina, au bout du couloir. Monsieur Thorne était hors de vue, derrière la porte battante de la cuisine. Je l'y laissai. Miss Kramer avança de 3 pas. Je retins mon souffle l'espace d'un instant. Monsieur Thorne posa une main sur la porte. Puis, la petite femme brune se dirigea vers le placard, attrapa le manteau de Nina et l'aida à l'enfiler. « Tu es sûre que tu ne veux pas rester ?»«
Non, merci, ma chérie. J'ai promis à Barrett que nous irions au Hilton Head ce soir. »«
Mais il est déjà tard.
Nous avons réservé des chambres. Merci quand même, Mélanie. Je te contacterai. » »«
Oui.
Je parle sérieusement, ma chérie. Il faut que nous parlions. » Je comprends exactement ce que tu ressens. Mais tu ne dois pas oublier que le jeu est encore important aux yeux de Willy. Nous devons trouver un moyen d'y mettre fin sans le froisser. Peut-être pourrions-nous aller le voir au printemps prochain à Carn Hall, si c'est bien ainsi qu'il appelle sa sinistre tanière bavaroise. Un voyage en Europe te ferait le plus grand bien, ma chère.
Oui, je te contacterai, sois-en sûre.
Dès que j'aurai réglé l'achat de cette nouvelle boutique, il faut que nous passions plus de temps ensemble, Mélanie. Rien que nous deux.
comme au bon vieux temps. Ses lèvres embrassèrent le vide près de ma joue. Elle me serra le bras pendant quelques secondes.
Au revoir, ma chérie.
Au revoir, Nina. Je rapportai le verre de cognac à la cuisine.
Monsieur Thorne l'accepta en silence.
Assurez-vous que la maison est bien fermée, dis-je.
Il hocha la tête et alla inspecter verrous et système d'alarme. Il n'était que 10 heures moins le quart, mais j'étais fatiguée.
C'est l'âge, pensais-je. Je montai le large escalier, sans doute était-ce le fleuron de ma demeure, et me préparai à me coucher. Un orage venait d'éclater et le bruit des gouttes de pluie froide sur le verre avait un rythme plein de tristesse.
Monsieur Thorne entra alors que je me brossais les cheveux en regrettant qu'il soit si court.
Je me tournai vers lui. Il plongea une main dans la poche de sa veste noire. Lorsqu'il la retira, une lame effilée en jaillit.
Je hochai la tête.
Il rempocha son couteau à cran d'arrêt et referma la porte derrière lui. J'écoutais ses pas descendre l'escalier jusqu'à la chaise placée dans l'entrée sur laquelle il passerait la nuit.
Je pense que j'ai rêvé de vampires cette nuit-là.
Ou peut-être ai-je pensé à eux juste avant de m'endormir, conservant un fragment de leur image jusqu'au matin. De toutes les terreurs que s'est infligée l'humanité, de tous les monstres pathétiques qu'elle s'est inventés, seul le mythe du vampire conserve encore quelques vestiges de dignité. Tout comme les humains dont il se nourrit, le vampire obéit aux sombres pulsions qui lui sont propres. Mais contrairement à ses ridicules proies humaines, le vampire utilise des moyens sordides pour parvenir à la seule fin qui puisse justifier de tels actes. Son but est tout simplement l'immortalité. Quelle noblesse et quelle tristesse.
Willy avait raison.
J'avais vieilli. L'année qui venait de s'écouler avait davantage sapé mes forces que la décennie précédente. Mais je n'avais pas festoyé. En dépit de ma faim, en dépit du visage vieillissant que je voyais dans mon miroir, en dépit de la sombre pulsion qui avait gouverné nos vies durant tant d'années, je n'avais pas festoyé. Je m'endormis en essayant de me rappeler les détails du visage de Charles. Je m'endormis affamée.